La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Alors que la saison des festivals a débuté, les concerts ont complètement changé au fil des années. Et oui, je vais sortir cette phrase de la génération des baby-boomers, c'était mieux avant. C'est fini l'époque Woodstock. Aujourd'hui, pour écouter de la musique live, on est obligé d'avoir le porte-monnaie bien rempli. 222 euros, c'est à cette hauteur que les prix montent pour aller voir Lady Gaga cette année. À ce prix-là, il faut être de une, une idole dévouée, et de deux, être plein aux as. Et encore en France, on est plutôt chanceux. L'année dernière, des Américains ont fait le voyage jusqu'à Paris pour voir Beyoncé, car le trajet, l'hébergement et les places étaient toujours moins chers comparés au prix des places aux États-Unis. Le bilan carbone dans tout ça, c'est un détail. Et puis les salles de concert sont devenues immenses. Alors comment faire pour se connecter avec l'artiste? Ou juste comment faire pour tout simplement voir quelque chose? Maintenant, les concerts sont des biens de consommation reproductibles à l'infini. Et ce, dans n'importe quel endroit du globe. Par exemple, le concert de Sabrina Carpenter. Avec les réseaux sociaux, tout le monde sait comment il se déroule de A à Z. La seule surprise, c'est sa fameuse position Juno, qui change à chaque fois. Bon, la spontanéité, c'est une perle rare aujourd'hui. Du côté de l'artiste, performer devient parfois un calvaire. Billie Eilish s'est déjà énervée en voyant des téléphones à la place des visages dans son public. À Coachella, cette année, génie des Blackpink a demandé au public de baisser les téléphones sans réel succès. Ou encore en 2022, à Francfort, Coldplay s'est arrêté en plein milieu de son morceau A Sky Full of Stars pour demander à son public de faire cette chanson sans téléphone. Et tout le monde semblait ravi de cette proposition. Alors est-ce que le futur des concerts ne serait pas celui d'interdire les téléphones et de vivre l'instant présent? Ces téléphones certes gâchent une partie du spectacle, mais c'est aussi le gagne-pain des artistes. C'est une vitrine très efficace. Les gens veulent vivre la même expérience qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Bref, au-delà de moi en train de faire ma grincheuse sur ce qu'est devenu le monde de la musique, les concerts deviennent dangereusement un privilège, alors que ce sont des moments essentiels d'union. On l'a vu avec les Jeux Olympiques, le sport tout comme la musique a cette force de pouvoir rassembler à n'importe quel moment des personnes de tous horizons. Au programme ce soir dans la matinale, Hélène recevra Dorian Guinard, maître de conférences en droit public, et Christina Rigui, députée de la Haute-Garonne, pour nous parler de la reprise des travaux de l'autoroute A69. Nous aurons le plaisir d'avoir Félix pour nous donner des nouvelles de l'actualité. Francesca se charge de la chronique de ce soir. Ensuite, le duo d'Open Handel nous parlera avec Céline de leur nouveau EP, sorti le 6 juin. Et enfin, Fabien clôturera cette matinale sur des infos insolites, titre mystérieux, mais faudra attendre la fin pour découvrir ce qui se cache derrière ces infos insolites. Après un arrêt de 3 mois des travaux de l'A69, la Cour administrative d'appel de Toulouse a autoriser la reprise du chantier qui se déroulera courant mi-juin. Pour nous parler plus en détail de ce sujet, nous avons avec nous à distance Dorian Guinard, maître de conférences en droit public à l'Université Grenoble-Alpes, et Christine Arrigui, députée écologiste de la 9e circonscription de la Haute-Garonne et rapporteuse de la commission d'enquête parlementaire sur l'A69.
Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole.
Toi, comme moi, comme eux, on aime le sud du Tarn. On vit à Castres, Mazam et Pont-de-l'Arc. Et pour demain, il nous faut coûte que coûte. Allez, venez, il nous faut l'autoroute à deux.
Non, à cette autoroute de la déprime, on a déjà la RN126. Nous, on est là. On lâchera pas l'affaire pour que vive les platanes centenaires. C'est les rois des platanes.
Monsieur Guinard, est-ce que vous nous entendez bien?
Oui, bonsoir madame.
Bonsoir, madame Arrigui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Pinard et Christine Arrigui, merci d'être avec nous pour parler de l'autoroute A69, un projet très controversé, comme en témoigne ce petit montage sonore avec partisans et opposants de l'autoroute, notre président de la République proclamant son amour de la bagnole et les bruits des grenades lacrymogènes et de danses encerclement utilisées par les forces de l'ordre lors de manifestations sur place. Alors ce projet, c'est quoi ? La ville de Castres souffre d'un mauvais raccordement à la capitale régionale Toulouse. La nationale qui relie les deux villes a donc fait l'objet de travaux dans les années 90. Mais au début des années 2000, un projet parallèle d'autoroute est lancé par un industriel local, soutenu notamment par une partie des élus et de la population. Le chantier démarre en 2023. L'opposition très active se mobilise alors. Élus, habitants, militants, mais aussi de très nombreux scientifiques, dont des membres du GIEC, et même deux agences de l'État, le Conseil national de la protection de la nature et l'autorité environnementale. Ils estiment ce projet anachronique face à l'urgence écologique et climatique. Et si on en parle aujourd'hui avec vous, Mireille Arrigui et Dorian Guinard, c'est que la situation a évolué très récemment. En février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu le chantier. Mais au mois de mai, coup de tonnerre en appel, l'annulation est annulée. Le chantier est donc autorisé à reprendre en attendant le jugement définitif qui, je crois, devrait avoir lieu en 2026. Bref, pour ceux qui n'auraient pas suivi, en gros, la justice autorise la construction d'une autoroute en attendant de savoir si on a le droit de la construire. Christine Arrigui, ma première question est de savoir pourquoi ce projet d'A69 a été maintenu alors que la plupart des projets d'autoroute ont été suspendus ou annulés en 2007-2009 suite au Grenelle de l'environnement.
Alors ce dossier il est emblématique en réalité d'une conception de l'aménagement du territoire qui date des années 80-90 et il est aujourd'hui combattu parce que au regard évidemment, comme vous venez de le dire, des alertes et des scientifiques, une autoroute parallèle à une route nationale et parallèle à une voie ferrée, parce qu'on oublie souvent de parler de la voie ferrée, c'est effectivement, comme vous l'avez signalé, complètement anachronique. Par ailleurs, la fréquentation de cette route nationale ne suffit pas, en termes exclusivement économiques, à rentabiliser cette autoroute. Et donc, c'est une autoroute qui, si elle est ouverte, et j'espère qu'elle ne le sera pas, présente également des contraintes en termes, évidemment, de péage, puisque c'est une autoroute qui coûtera pour les particuliers plus de 20 euros aller-retour pour 53 km entre Castres et Toulouse, et plus de 60 euros pour les poids lourds. Et puis, en dernier lieu, c'est un montage financier qui présente des tas d'anomalies et ces anomalies n'ont pu être relevées que dans le cadre de la commission d'enquête parce que l'ensemble du dossier, l'ensemble du contrat est couvert par ce que l'on appelle le secret des affaires
On va revenir sur cette question du secret des affaires et pour parler de cette commission justement, vous avez obtenu la création de cette commission d'enquête parlementaire sur le montage juridique et financier du projet d'autoroute A69. Il est vrai qu'on peut s'étonner de voir cette autoroute de 50 km qui se finit en cul-de-sac être défendu au plus haut sommet de l'État. Alors, est-ce que cette commission d'enquête parlementaire, qui a été interrompue par la dissolution mais qui avait quand même eu le temps de travailler, vous a apporté des éléments pour comprendre ce soutien qui peut être assez étonnant pour ce projet d'autoroute ?
Alors, le comprendre, c'est une chose, l'entendre, c'est une chose, le comprendre, certainement pas. En réalité, les élus qui défendent cette autoroute le défendent sur la base d'un paradigme qui est celui de la question du désenclavement. Or, le tribunal de Toulouse, le 27 février 2025, que vous avez rappelé, a repris point par point la question de ce qu'on appelle le bilan socio-économique et également s'est appuyé sur des auditions qui ont été faites de géographes, d'urbanistes, qui montrent qu'en réalité, une autoroute, lorsqu'elle est construite, se fait au détriment des villes moyennes qu'elle dessert et conforte la métropolisation au détriment effectivement du développement économique de ces autoroutes. De la même façon, on voit bien qu'il y a plein de villes qui sont reliés par des autoroutes et qui pour autant ne se sont pas développés économiquement. Et en l'occurrence, dans ce dossier, le vrai sujet, c'est qu'il y a d'autres liaisons qui ramènent Toulouse à Castres et Castres à Toulouse, qui sont cette nationale 126 et la voie ferrée. Et c'est donc ces éléments qui auraient dû être évidemment creusés qui ne l'ont pas été dans le cadre de la déclaration d'utilité publique. La perspective du report modal avec la voie ferrée n'a absolument pas du tout été explorée, et très très faiblement pour la nationale 126. Et donc on est vraiment là dans ce qu'on appelle un écocide, c'est-à-dire une structure qui demande à bénéficier d'une raison impérative d'intérêt public majeur pour déroger au droit environnemental, alors même que d'autres liaisons étaient possibles, et notamment l'aménagement de la 126 qui avait déjà été commencé pour à peu près 10 km entre deux villes, Soile et Puylaurens, pour éviter de traverser les villages.
On sait que les laboratoires pharmaceutiques Pierre Fabre ont été très actifs dans la demande de cette autoroute. Est-ce que votre commission, qui s'intéressait au montage juridique et financier, a pu pointer l'importance des relais politiques qui expliquent que ce soit monté jusqu'au plus haut sommet de l'État ?
Alors, des relais politiques et des relais médiatiques, et vous parlez de l'intervention d'une société de laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires Pierre Fabre, qui, jusqu'à le moment de la commission d'enquête, avait indiqué ne s'intéresser à cette autoroute que pour le volet économique. Mais en réalité, une fois levé le secret des affaires, eh bien, nous nous sommes aperçus que la société Pierre Fabre avait aussi des participations financières dans cette autoroute, qui se sont faites à travers une société qui participait au contrat, qui était une société avec un capital de 1 euro et qui, tout d'un coup, s'est transformée en une société à capital à 8 500 000 euros, dont les laboratoires Pierre Fabre. Donc, les laboratoires Pierre Fabre ont un véritable intérêt financier dans ce contrat qui n'avait pas été révélé et qui n'aurait pas été révélé s'il n'y avait pas eu la commission d'enquête.
Monsieur Guinard, on va vous demander votre expertise de droit public. Donc, en premier lieu, le tribunal administratif de Toulouse avait interrompu ses travaux de la 69 parce qu'il ne présentait pas une raison impérative d'intérêt public majeur. Et en réaction, les parlementaires ont voulu adopter une loi dite de validation pour valider deux arrêtés relatifs à l'autorisation environnementale nécessaire pour la reprise du chantier de la 69. Est-ce que ce court-circuit représente un non-respect de la séparation des pouvoirs ? Et si cette loi est adoptée, est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait la valider ?
Alors, la synthèse est très bonne. Et donc, et vu que Madame la députée a dit, je pense, l'essentiel sur notamment la RN 126, je vais être relativement court là-dessus. Alors, de mon point de vue, c'est une voie, parce qu'on est dans la construction de routes, c'est une voie détournée pour ne pas respecter la séparation des pouvoirs, effectivement, parce que depuis 40 ans, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les lois de validation, surmonter frontalement une décision de justice, c'est inédit. D'habitude, on prend des lois de validation pour neutraliser les effets de certaines décisions de justice pour des contentieux en pagaille qui pourraient survenir, typiquement des annulations de concours de la fonction publique. Mais alors, pour surmonter directement une décision de justice et neutraliser la décision de justice en elle-même, c'est relativement inédit, et c'est en cela que c'est une atteinte par le flanc environnemental à notre état de droit via la séparation des pouvoirs. Ça, aujourd'hui, on peut le dire de façon relativement posée. Alors, est-ce que ça va passer sous les fourches codines du Conseil constitutionnel ? Alors, j'en sais strictement rien, parce que je n'ai pas la boule de cristal. Mais si on doit raisonner en termes de probabilité, probablement qu'elle sera censurée, parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la jurisprudence, à la fois du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, qu'il faut garder en tête un petit peu quand même là-dessus, cette loi de validation ne présente pas de motif impérieux d'intérêt général au sens du Conseil constitutionnel, parce qu'en gros, les finances publiques de l'État ne sont pas remises en cause, par le remboursement éventuel aux concessionnaires des sommes engagées. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième, c'est que si la loi passe, on ne sait jamais, ça arrive, le contentieux qui sera devant la Cour administrative d'appel de Toulouse, au fond, pour juger de la légalité de la 69, parce que tout à l'heure, j'ai entendu que vous aviez dit que la Cour administrative d'appel de Toulouse avait annulé le jugement. Non, les travaux vont reprendre parce qu'il y a eu un sursis à exécution du jugement, ce qui est différent. Ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans cette situation totalement ubuesque, pour reprendre les mots du ministre des Transports, où on va continuer des travaux sans certitude légale sur le fond, quand même, parce que le jugement n'a été neutralisé que parce qu'il a été prononcé un sursis à son exécution. On ne sait toujours pas si les travaux sont légaux, et en l'état, ils sont illégaux parce que le jugement du tribunal administratif de Toulouse n'a pas été annulé. Donc on va continuer tout cette grande construction, parce que là pour l'instant en plus il n'y a que la chaux qui a été passée, il n'y a pas eu de bétonisation. On va continuer tout ça sans avoir aucune certitude légale sur ce dossier qui devient de plus en plus, imprudent et ubuesque. Et moi ce que je voudrais quand même dire par rapport aux propos de madame la députée et par rapport aux propos de la dernière chanson qu'on a entendue, hein, contrairement à l'autre chanson qui n'est absolument pas pertinente, c'est quoi ? C'est de dire, il faut être honnête. Au bout d'un moment, il faut être honnête. Le tribunal administratif de Toulouse a passé 5 pages à expliquer pourquoi il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur et 2 pages pour dire que le désenclavement économique était une mythologie. Ça a été en plus confirmé à de multiples reprises, notamment par l'Institut Champollion à Albi, qui a par A plus B montré tout ça. Donc on n'est pas sur un désenclavement économique et la métropole de Castres ne fait pas l'objet aujourd'hui d'un déclin démographique total, comme on a pu l'entendre. Donc du coup, ce qui est important de montrer, c'est que si cette loi passe et qu'elle valide ce qu'on appelle la raison impérative d'intérêt public majeur, qui est devenue en l'espace de 2 ans, une notion de droit public connue du grand public, ce que moi je salue quelque part, il y a cette idée que ça ne sera que sur la raison impérative d'intérêt public majeur que le dossier aura été légalisé. Mais ce que les gens ne savent pas, et moi, du point de vue du juriste, je suis sidéré, c'est que bon nombre d'élus, y compris du Tarn et de la région Occitanie, n'ont toujours pas compris que la dérogation espèce protégée comprend 3 critères. Je finis là-dessus, parce que ça reprend les propos de Mme Arrigui, elle a vraiment raison de le souligner. Il y a la RN 126, il y a la voie de chemin de fer, et ce sont des critères de la dérogation espèce protégée, tout ça. Et ceux-là n'ont pas été validés ou ne seront pas validés par la loi, donc ça reste encore des motifs d'annulation. Tout ça n'est pas fini, et on reste encore dans l'incertitude, et on va bétonner quelque chose qui n'a aucune certitude légale. C'est sidérant.
Merci Madame Arrigui. On se retrouve juste après une pause musicale. On écoute Podium de Grisha.
C'est quoi la vie que je mène? C'est quoi de saisir sa chance si on attend qu'on nous l'amène? Non, passez-moi au scanner, les doutes et moi on se connaît. Y'a mon système qui poème. Ils veulent s'entasser sur le trône. Certains tueraient pour la couronne. Je veux la place de personne. On peut tous pousser dans le même sol. La vie c'est pas le podium, c'est aussi l'échec. J'peux pas faire de miracle, j'peux pas être le best. Qu'il y a la flamme qui brûle en toi, c'est tout ce qui compte. Au fond, c'est quoi le succès s'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas de chagrin, s'il n'y a pas de peine? L'important c'est d'y croire jusqu'à la fin, même si ça foire. Écoute, tu sais, une médaille c'est pas si mal de façon. Quoi que tu dises et quoi que tu fasses, le temps l'effacera. Ta plume s'abîme à cause des faux soyeurs de rêve. La boule au ventre, pas de baume au cœur. Y'a que moi qui peux me soigner, je suis le remède et le poison. Le docteur et le patient, trop d'artifices. Maille du filet, t'es passé honte. J'ai coupé les ponts et j'ai vidé mon sac. La voix du prochain moi me dit que ça vaut pas la peine de fuir. Pas la peine de penser qu'il y a pas de suite au film. Tu connais pas l'échec, t'as fait gagner la peur. Dans l'océan des craintes, tu navigues en maître. Pas la peine de forcer, va pas te faire mal. Tu vas finir par t'y mettre. En hommage à tous les projets partis trop tôt, à toutes ces idées brillantes jamais rappelées, à tous ces rêves de gosse qui n'ont jamais vu l'eau, qui la verront jamais. La vie c'est pas le podium, c'est aussi l'échec. J'peux pas faire de miracle, j'peux pas être le best. Il y a la flamme qui brûle en toi, c'est tout ce qui compte. Au fond, c'est quoi le succès s'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas de chagrin, s'il n'y a pas de peine? L'important c'est d'y croire jusqu'à la fin, même si ça foire. La vie c'est pas le podium, c'est aussi l'échec. Je peux pas faire de miracle, je peux pas être le best. Tant qu'il y a la flamme qui brûle en toi, c'est tout ce qui compte. Au fond, c'est quoi le succès s'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas de chagrin, s'il n'y a pas de peine? L'important c'est d'y croire jusqu'à la fin, même si ça foire.
C'était Podium de Grisha. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans la matinale de 19h.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Hélène et Dorian Guinard, maître de conférences en droit public, et Christina Rigui, députée écologiste de la Haute-Garonne, avec qui nous discutions de la reprise des travaux de l'A69, décidée le 28 mai par la Cour d'appel administrative de Toulouse.
Christina Rigui, le combat contre la 69 est un combat difficile, un combat à la fois juridique et politique. Vous-même avez été confrontée notamment à l'argument du secret des affaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est, je pense, la base de ce dossier, parce que ce dossier, au-delà du question évidemment écologique et environnementale, au-delà de la question évidemment sociale et financière, c'est aussi un dossier qui a été couvert par le secret des affaires et qui est couvert par le secret des affaires. Et donc, je n'ai eu accès à l'ensemble de ces informations que parce que j'avais des prérogatives spécifiques liées en ma qualité de rapporteur de la commission d'enquête. Et donc, là, on se rend compte qu'on a un vrai sujet d'ordre démocratique, puisque dans ce dossier, tous les éléments relatifs notamment à la question environnementale, mais des éléments relatifs à des ambitions de disposition de fermes solaires, mais également par rapport au montage financier, par rapport au péage, tout ça a été couvert par le secret des affaires. Et donc, comme je le dis souvent, ceux qui sont favorables à cette autoroute A69 n'en savaient pas davantage que ceux qui ne sont pas favorables à cette A69, à ceci près que ceux qui n'y sont pas favorables ont demandé à avoir accès à ces informations et chaque fois leur a été opposé le secret des affaires. C'est un vrai sujet d'ordre démocratique et ce sujet d'ordre démocratique, il est encore enfoncé et encore davantage avec la loi de validation dont on a parlé tout à l'heure, puisque là, en l'occurrence, non seulement on a une loi de validation qui, en fait, enjambe le droit environnemental tel qu'il existe aujourd'hui et sur lequel se sont basés les juges, mais en plus, la minorité présidentielle, dans ce dossier-là, a voté une motion de rejet préalable qui avait été déposée, et déposée par l'opposition, pour nous priver également du débat. Donc, dans ce dossier, on n'a pas accès à l'information, par le biais du secret des affaires, et en plus, pas possibilité d'en débattre, puisque dans ce cadre-là, les partisans de l'A69 ont privé les députés, mais également tous les citoyens, du débat qu'il y aurait pu avoir suite, évidemment, aux amendements que nous avons déposés, sur le faux prétexte que nous aurions fait de l'obstruction. Or, en réalité, nous n'avions déposé qu'il n'y avait à examiner que 237 amendements, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à l'enjeu d'aménagement du territoire que recouvre ce dossier. Et donc, c'était un faux prétexte, une vraie mascarade qui nous a privés de débat et donc privés de la possibilité d'exposer à l'ensemble des citoyens, en fait, ce qu'il se cache derrière ce dossier de la 69, non seulement en termes de conception de l'aménagement du territoire, mais également en termes de montage financier de ce dossier.
Alors, sur ces questions, justement, de recours, de combat, etc., Dorian Guinard, un fait qui peut sembler étonnant pour quelqu'un qui ne connaît pas, sauf erreur de ma part, le rapporteur public, qui est là pour éclairer, si j'ai bien compris, la décision des juges, c'était plutôt prononcé contre la reprise du chantier. Donc, comment comprendre la décision de la Cour d'appel par rapport à cet avis du rapporteur public ?
Si vous parlez du rapporteur public de la Cour administrative d'appel de Toulouse, il s'est prononcé pour la reprise du chantier en suspendant le jugement.
Ah, je pensais qu'il s'était prononcé pour le jugement de février en faveur.
Non, c'était prononcé pour le sursis à exécution du jugement et donc pour la reprise. Avec de mémoire, mais je n'ai pas sous les yeux, avec de mémoire cette idée qu'il y avait une nécessité de raccorder des métropoles comme Castres et Toulouse en raison de leur taille et du développement économique. Et donc du coup, ce n'est pas pour faire de la technique juridique ce soir, mais quand on lit la décision du juge du sursis, donc le juge de Toulouse qui a suspendu le premier jugement du tribunal administratif de Toulouse. Je pense que les gens qui ne font pas de droit ce soir seront un petit peu perdus, mais en gros, il y a des juges d'appel qui ont suspendu les juges du tribunal. La décision est extraordinairement peu motivée, c'est-à-dire elle est peu détaillée sur les motifs de ce sursis à exécution. C'est très surprenant, c'est lapidaire, notamment sur, je l'ai rappelé tout à l'heure, sur d'autres moyens d'annulation, car je le redis, et nous le disons beaucoup hein, pour les spécialistes du droit de l'environnement, hein, ce n'est pas un débat aujourd'hui qui est polarisé politiquement, c'est que juridiquement, il pose de très grandes questions. Il y a encore deux moyens d'annulation qui sont extrêmement pertinents dans la dérogation espèces protégées. C'est à la fois pour le pétitionnaire et pour les organes de l'État, mais d'une imprudence totale ce dossier.
Alors justement, vous parlez des espèces protégées, on peut être étonné quand on ne connaît pas le dossier, enfin quand on connaît mal le droit et le droit administratif notamment, qu'un dossier d'une telle ampleur, un projet d'une telle ampleur, la question juridique tourne autour de cette question des espèces protégées. Alors pourquoi elles étaient au centre du débat? Est-ce que c'est parce que c'était l'outil le plus efficace pour arriver à obtenir une décision de justice?
Non. En fait, dans une autorisation environnementale, il y a plusieurs éléments, dont la dérogation espèces protégées, qui avait été donnée par les préfets en mars 2023. Mais ce n'est pas qu'elle a été utilisée parce que c'est l'arme la plus efficace, c'est qu'en fait, le projet va porter atteinte et a commencé déjà à porter atteinte à 162 espèces protégées ou leur habitat. C'est-à-dire qu'en fait, les espèces protégées sont au centre du dossier parce que l'impact sur les espèces protégées est monumental en réalité. C'est ça l'idée. Et qu'aujourd'hui, dans un contexte environnemental qui est plus que dégradé, à l'heure où le dérèglement climatique est une réalité factuel pour tout le monde aujourd'hui, et à l'heure où l'effondrement de la biodiversité n'est plus contesté et fait l'objet d'un consensus scientifique, construire ce type d'infrastructure sans respecter le droit de l'environnement relatif aux espèces protégées est à la fois une aberration démocratique et une aberration juridique, comme ça a été rappelé à de multiples reprises, notamment par un analyste.
Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer aussi que soit mis en cause le montage financier, dans la mesure notamment où, sauf erreur de ma part, Madame Arrighi, il y avait aussi, vous aviez vu, des éléments qui n'étaient pas complètement transparents, notamment sur les matériaux de chantier, les gravillons?
Oui, alors c'est un autre partie du dossier, d'ailleurs à ce titre-là, je le rappelle, j'ai déposé ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire un signalement au procureur de la République, puisque dans ce dossier, celui qui a emporté le contrat, c'est-à-dire la société Atosca, s'était engagé à ne pas utiliser de gravier, donc d'extraction de carrière, et donc du coup a fait une offre évidemment financièrement plus intéressante et environnementalement plus pertinente. Or, j'ai découvert encore par le biais de la commission d'enquête et par d'autres recherches qu'en réalité cette société a fait appel à des carrières et à des matériaux qui ont été transportés sur le chantier, alors même que pendant la commission d'enquête il répétait qu'il n'avait pas besoin de gravier pour faire cette autoroute. Mais la réalité là-dedans, c'est que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février s'est appuyé sur la dérogation aux espèces protégées parce qu'il a considéré que c'était, comme vient de le dire Monsieur Guinard, parce qu'il a considéré que c'était déjà tellement une telle dérogation qui n'était pas consentie normalement, puisque déjà l'ART, la CNDP avaient alerté sur ce sujet-là, qu'il n'était pas besoin d'examiner d'autres moyens. Et donc, dans le cadre de ce dossier, on s'aperçoit que plein d'autres éléments pourraient être apportés et pourraient être soumis effectivement au juge, alors même que le tribunal de Toulouse s'est appuyé sur la question de la raison impérative d'intérêt public majeur pour la contester. Je rappelle que, y compris pendant l'exécution du chantier, au-delà de ce que nous venons de dire, la société Atosca est poursuivie pour 42 rapports en manquement administratif pour ne pas avoir respecté ces obligations qui figurent au contrat et fait l'objet également de 15 mises en demeure de la préfecture par rapport à sa mauvaise exécution du chantier.
Je vais vous interrompre. Nous arrivons vers la fin. Dorian Guinard, je vais vous laisser le mot juste de la fin. En 10 secondes, quelle est la prochaine étape du combat?
Prochaine étape du combat, c'est éventuellement un recours en cassation contre l'arrêt de suspension de l'exécution du jugement. Et la prochaine vraie étape, ce sera l'arrêt au fond, donc fin 2025, début 2026. Et moi, j'exhorte vraiment tous les participants de ce dossier à ne pas continuer les travaux, même si aujourd'hui le droit le permet, parce que la bétonisation est irréversible et aujourd'hui les certitudes légales n'existent pas. Soyons un peu rationnels, soyons un peu lucides et respectons les décisions de justice jusqu'à ce que les recours soient purgés au fond. C'est pas très très compliqué quand même.
Merci Monsieur Guinard, merci Madame Arrigui, merci Hélène. Tout de suite le flash info de Félix.
Le flash info de la matinale de 19h.
À la une de l'actualité en ce mardi 10 juin 2025, une surveillante d'un collège de la ville de Nogent en Haute-Marne est décédée ce matin après avoir reçu des coups de couteau d'un élève de 15 ans. Alors que des gendarmes procédaient à une fouille devant l'établissement, l'adolescent a sorti un couteau de son sac et s'en est pris à cette femme âgée de 31 ans. Soignée pendant plus de 2 heures sur place, elle a finalement succombé à ses blessures. Actuellement retenue en garde à vue, le collégien n'a toujours pas expliqué la raison de son passage à l'acte. Une minute de silence s'est tenue à l'Assemblée nationale cet après-midi. Début des mobilisations des chauffeurs VTC et des taxis. Les premiers se sont rassemblés en réalisant des opérations escargots dans plusieurs grandes villes comme Nantes ou Rennes. Les VTC réclament notamment un moratoire sur le nombre de conducteurs car selon les syndicats, il y aurait trop de chauffeurs ne permettant pas de dégager un chiffre d'affaires suffisant. Les taxis présents, eux, en faible nombre aujourd'hui devant le ministère de l'économie à Paris, seront bien plus fortement mobilisés demain matin. Ils mèneront également des actions autour de l'aéroport de Roissy et d'Orly. Leurs revendications concernent toujours la nouvelle convention de l'assurance maladie sur les transports des patients. Leurs représentants sont attendus demain au ministère de la Santé. À l'international, deux des six militants français présents sur le voilier humanitaire Madeleine ont accepté leur expulsion du territoire israélien ce mardi 10 juin. Les quatre autres, dont l'eurodéputé Rima Hassan, seront donc traduits devant la justice de l'État hébreu, selon le ministère des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Il annonce que d'éventuelles expulsions auront lieu après décision des juges israéliens dans les prochains jours. La militante écologiste suédoise Greta Thunberg avait de son côté accepté de quitter le territoire israélien ce matin et de prendre la direction de son pays. Pendant son escale à Paris, elle a déclaré que les militaires israéliens, je cite, ont commis un acte illégal en nous kidnappant dans les eaux internationales. Fusillade dans un établissement scolaire en Autriche à Graz, dans la deuxième ville du pays. La maire de la ville, Elkekar, fait état de 10 morts en comptant l'assaillant et de 12 blessés, dont 2 en état critique. Le tueur aurait visé précisément la salle de classe où il avait étudié 2 ans plus tôt. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, écrit sur X qu'il est difficile de supporter que des écoles deviennent des lieux de mort et de violence.
Merci Félix. On poursuit cette matinale juste après la chanson French Touch de Surprise, Mandy Spy.
Aucune chance, donc je garde mon arrogance. Si tu m'enlèves avec ton absence, si tu m'enlèves avec la romance, on est pareil, on a des rêves immenses. Ça prend le dessus, je suis pas si toxique, mais je suis pas une ficelle. Comment je suis déçue de ce business? Que des fils de, ils ont fait un record Guinness. Je crois pas d'happiness, les années passent à une vitesse. Je suis donc j'en peux, le produit de sa flèche. Je compte avec un père, dans notre histoire, y'a plus de base. French touch, j'parle en français, il veut parler touch. Il m'a jeté toute la noche, ça me dérange pas si c'est toi. Tu le fais way too much. French touch, French touch, j'parle en français, il veut parler touch. French touch, j'parle en français, il veut parler touch. Il m'a jeté toute la noche, ça me dérange pas si c'est toi. Fais les sons, passe sur les choses en face. J'attends plus la fin de la soirée. Dans ses draps, quand le soleil se lève, on veut que ça dure. Je vais écouter ma maquette et me dis ça tue. Je danse la musique s'arrête quand l'ordi sature. Bébé, je t'ai calé, c'est dans ma nature. Bébé, je t'ai calé, c'est dans ma nature. Je sais pas conjuguer l'amour au futur. Quand le soleil se lève, on veut que ça tue. Normal, dis-moi pourquoi on s'attire. Là, dis-moi pourquoi on s'attire. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'attend. Et j'avais plus de choses à dire. Mais on me comprend mieux quand je me tais. French touch, je parle en français, il veut parler touch. Il m'a jeté toute la noche, ça me dérange pas si c'est toi. Tu le fais way too.
C'était French Touch de Surprise Mandy Spy.
La matinale de 19h.
C'est l'heure maintenant de la chronique du ras-de-bol de Francesca qui va nous dire que des good news.
Alors je vais essayer. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, oui, je vous propose des boucliers anti-anxiété et pour pas cher. Avec tout ce qui se passe en ce moment à Paris, en France et dans le monde, on a malheureusement l'embarras du choix pour les sujets de chronique actuelle, on est d'accord. Mais bon voilà, l'actualité est dense, parfois lourde, et il est facile de se sentir submergé. Et justement, je pense qu'il est important de savoir aussi se préserver dans ce flot continu d'informations. Les informations nous assaillent et il est parfois difficile de ne pas sombrer dans la dépression et la paranoïa face à l'ampleur des défis que nous traversons collectivement. La tentation est grande de se laisser emporter par le pessimisme, mais il est important de ne pas céder à ce défaitisme. Alors, comment faire pour ne pas se laisser submerger ? Mon premier conseil, c'est de vous informer, oui, mais intelligemment. Ne vous jetez pas sur toutes les nouvelles, tout le temps, sans discernement. Prenez du recul, choisissez vos sources, privilégiez la presse sérieuse, celle qui analyse et décrypte, plutôt que celle qui sensationnalise. J'ai du mal à le dire cela. Ensuite, limitez drastiquement vos expositions aux écrans et surtout aux réseaux sociaux qui peuvent amplifier le sentiment d'anxiété par leur flot continu de nouvelles, souvent anxiogènes et non vérifiées. N'oubliez pas l'importance vitale de la déconnexion. Accordez-vous des moments de répit, de pause, loin du tumulte numérique. Faites des activités qui vous ressourcent, lisez un livre, écoutez de la musique, pratiquez du sport ou même, évidemment, écoutez notre radio. Pourquoi pas ? Apprenez une nouvelle compétence, boire une bière avec un ami, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Passez du temps avec vos proches, dans la nature, c'est havre de paix qui nous rappelle la beauté du monde et surtout, n'hésitez pas à parler de vos angoisses. Prenez soin de votre santé mentale autant que votre santé physique. Et si vraiment vous ne pouvez pas résister au numérique, chose que je peux aussi comprendre, car vous comprenez, nous sommes tous un peu cordonniers dans l'âme et je vous propose, ou plutôt des lumières dans l'obscurité. Il existe des pages, des initiatives, des réussites, des actes de solidarité, des histoires d'entraide et de résilience qui sont mis en lumière, qui nous rappellent qu'il se passe aussi des belles choses dans le monde et parfois pas loin de chez nous. C'est d'ailleurs précisément ce que propose le merveilleux travail de Mamadou Dembélé avec son compte Instagram The Impact Story, ou comme Noah, 15 ans, qui a créé un média éclat positif parce qu'il en a eu marre de se réveiller le matin avec les actualités qui gâchent la journée. Ses comptes sont des bouffées d'air frais, des rappels quotidiens, qu'il y a aussi des belles choses et des belles histoires, des raisons d'espérer et des personnes qui agissent positivement pour un monde meilleur. Ils sont un antidote puissant à l'anxiété ambiante en nous montrant le meilleur de l'humanité, l'innovation, la solidarité. Et bien sûr, je vais contrer le pessimisme par l'optimisme. Si vous ne savez pas, il faut 7 bonnes nouvelles pour contrer une seule mauvaise nouvelle. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez pas de rester positif.
Merci Francesca pour ces conseils bien-être nécessaires. Tout de suite, c'est place au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Bonjour Cara et Étienne.
Bonjour.
Hello.
Alors, vous êtes le groupe d'Oppenheimer et donc depuis début juin, vous avez sorti votre EP qui est composé de 5 singles. Et donc, vous allez sortir votre release le 4 juillet au pop-up.
C'est ça.
Voilà. Alors déjà, comment a débuté la création de cette EP ?
Oula, ça date
on a appuyé sur des notes, ça fait des musiques. Ça commence il y a longtemps.
Hein. Ouais, c'est pas des morceaux qui sont forcément tous récents, mais on a voulu créer un EP assez homogène et tout. Tout est chanté en français et on a regroupé des morceaux qui nous paraissaient les plus pertinents par rapport à tout ce qu'on avait fait.
Non, mais c'est vrai que c'est un ensemble de morceaux. Certains ont commencé à être, ils ont été créés et finalement il y a plus d'un an, non certains, mais ils ont changé, ils ont évolué, ils ont muté. Et certains sont beaucoup plus récents, ils sont de cette année. Et en fait on s'est rendu compte qu'ils allaient bien ensemble et on s'est dit ben voilà, ils vont sortir ensemble dans cette EP, main dans la main.
Belle aventure ensemble.
Ok, donc vous avez plutôt eu des influences d'une certaine époque ou d'un certain lieu?
Plutôt les années 80, hein, surtout dans le style et esthétiquement sur les visuels qu'on a utilisés et dans les sons aussi, en fait. On est très sur des sons de boîte à rythme, kick, où le kick est vachement important et le snare qui claque, quoi. On aime les sons
qui tapent. Il faut que ça fasse mal, mais que ce soit un mal agréable. Quand
voilà,
même.
C'est ça. Tout en restant positif, comme l'a dit Francesca juste avant. Voilà.
C'est vrai, il faut écouter Dope Landel pour aller mieux.
Oui,
c'est ça. Il suffit d'écouter un morceau et ça enlève 10 mauvaises nouvelles. C'est ouf.
Donc, en fait, vous êtes dans la positivité, mais en même temps, ça a une tonalité qui est plus sombre. Comme,
Ouais, carrément. Bon, les sujets qui sont traités sont parfois un peu durs, quoi. Par exemple, sur Assassin, je parle des violences conjugales. Là, c'est pas un thème très sympathique, mais je veux dire que les sons qu'on utilise souvent font que le titre ressort positivement. Et il y a toujours une réponse, il y a toujours une porte ouverte dans Dope Landel. Il y a toujours de l'espoir, finalement, dans le message qui est exposé. Donc voilà, bon, il y a les violences conjugales qui sont abordées dans Assassin, on parle de dans Gentiment, on parle de l'éloignement qui est inévitable entre un père et sa fille, entre deux amis, entre deux amours. Donc bon, c'est forcément des thèmes un peu durs, mais je pense qu'on arrive quand même avec notre côté décalé second degré à faire quelque chose de pas trop sombre, quoi.
Ouais. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'on veut faire des morceaux pour danser et toi tu viens avec ces sujets. Ouais, je me pose des questions un peu. Oui, j'ai une super idée pour danser les violences conjugales.
Waouh, c'est intéressant. C'est vrai.
Non, par contre, c'est vrai que pour le coup, tous les morceaux ils sont assez péchus et transmettre quand même une énergie en fait tout le temps, c'est pas un truc qui t'emmène vers le bas, c'est plutôt un truc qui va te pousser vers le haut. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont hyper intéressants, c'est des sujets souvent d'actualité, enfin pas toujours d'actualité, mais parce que Gentiment c'est pas spécialement d'actualité, mais c'est quelque chose, des sujets qui te touchent en tout cas.
D'actualité mais dans la génération, quoi, en fait.
T'arrives quand même à insérer des thèmes complexes dans des morceaux finalement qui transmettent beaucoup d'énergie. Donc, c'est assez rigolo.
Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est des sujets, je dirais, qui touchent vraiment plutôt l'actualité et donc la société dans laquelle on est et les contraintes qu'on peut avoir. Mm-hmm. Et on peut retrouver ça aussi dans certains de vos singles, comme dans Gentiment, où qu'on le veuille ou non, parfois on va être dans la solitude, malgré tout.
Mm-hmm. C'est bien clair. Ça. Oui, c'est tout à fait ça.
Ouais, oui. Stoppé, c'est... C'était en fait l'idée qui est aussi ressortie, c'est que Karen et moi, on n'a pas du tout le même âge, même si je fais très jeune. Tout le monde pense que j'ai le même âge que Karen, mais non.
Et, je ne sais pas si c'est un compliment pour moi, du coup.
Non, mais pour moi, oui. Et bah c'est surtout mon immaturité en fait. Mais toi, très mature, pardon. Mais je m'enfonce chaque fois plus. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Non, mais pour dire, voilà, on s'est rendu compte que finalement, malgré notre écart qui est presque 20, hein, c'est ça, 20 ans, ouais, 20 ans d'écart. Cara a 10 ans, c'est 30 ans. Du coup, oui, on se sent dans cette société un peu de la même manière finalement. Et du coup, voilà, c'est ça qui a réuni un peu les thématiques, c'est de se sentir pas toujours exactement en phase avec ce que demande cette société un peu consumériste, enfin pas un peu consumériste complètement, etc. Un peu, et donc oui, ça, d'où un peu aussi, alors je sais pas si peut-être, je vais peut-être en avance sur les questions, mais genre voilà, d'où aussi l'esthétique de l'EP, etc., avec ce liquide
Noir.
Ouais, noir. Qui est donc quelque chose d'un peu engluant, ouais. Voilà, un peu gluant et qui nous tire un peu comme ça, qui empêche la fluidité, on va dire.
Et c'est vrai, on retrouve ce liquide noir partout, dans vos covers, dans vos chansons, dans vos clips. Pourquoi ce liquide noir, justement? Pourquoi spécialement?
On adore le pétrole. Tout ce qui est produit pétrolier, tout ce qui est dérivé,
total.
Le plastique.
Non, pourquoi ce liquide? Bon, ben, j'ai déjà peut-être raconté auparavant, mais moi, ça remonte à mon baccalauréat et à mes souvenirs de première et du bac de français avec le spleen de Baudelaire. Et il symbolisait le mal-être par un liquide noir, la bile, le spleen, en fait. Mmh. Et bon, forcément, j'ai eu cette référence-là. Et bon, ben, on l'a un peu modernisé en le répandant aujourd'hui sur des téléphones, des claviers d'ordinateur, en coquillage, voilà, pour voir que ce liquide qui est l'énorme, qui symbolise les normes sociales aujourd'hui, englue des objets du quotidien, donc nous bloque, en fait, nous. Ouais, nous bloque.
Ouais. Faut une espèce de. Ben c'est pas toujours agréable de prendre un téléphone englué.
Oui, c'est ça. Oui.
D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on s'est beaucoup sacrifié personnellement pour le shooting, parce qu'on voulait pas faire de l'IA pour les pochettes, et donc on a vraiment traîné
c'est
dans ce.
C'est une vraie recette qu'on a élaborée. Donc, vraiment, oui.
On pourra transmettre aux fans s'ils veulent avoir la recette.
Oui.
Avec la fumée rouge, la fumée noire un peu.
C'était des fumigènes d'ailleurs qui nous ont aussi brûlé la peau lors de ce shooting.
Il y aura un petit post d'ailleurs. Si vous êtes patient, il y aura un post bientôt pour montrer le making où on crie beaucoup.
On crie sur les photos.
J'ai encore des cicatrices.
Oui, moi aussi. Hein. Moi aussi.
Ah, je les montre.
On les voit bien.
Cicatrices.
Non, il faut faire attention à sa santé quand même.
On donne tout pour le groupe. Tout le groupe avant tout. Ouais,
tout pour les fans.
Ouais, exactement.
Ok. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'un des covers, c'est celui du téléphone, justement. Dommage. Et donc, c'est qui a eu l'idée de la chanson Dommage?
Ah, bah, c'est Ciara.
C'est Ciara, j'en étais sûre. Ouais, je me disais bien, ça faisait plus féminin un peu.
Oui, en plus le personnage est féminin. Enfin, dans les paroles, tu veux dire, ou dans
les paroles, même la position, je dirais, du téléphone vintage rouge et tout ça.
Ouais, ben après, plutôt l'artwork, ça a été nous deux. Mais. Grâce à un fabuleux photographe qui s'appelle Cécile Mathieu, on lui fait un gros coucou. Mais pareil, avec cette même recette inégalable de liquide noir qui nous a mis deux jours à être égalés.
Mais oui, en tout cas, la thématique, oui, ça c'est vraiment un truc qui te.
Oui, c'était plutôt personnel. Le sujet, en tout cas, était du morceau était personnel. Mm-hmm. Ouais, voilà.
Ok.
Tu veux parler de la thématique?
Oui.
Bah, c'est le fait de pas. Avoir les armes pour aborder quelqu'un quand on ne sait pas dans quelle sexualité on est à un moment donné, quoi.
C'est en fait le fait de s'empêcher d'aimer librement avec nos désirs parce qu'on est conformé à une certaine image finalement.
Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. Okay. Du coup, tu as bien résumé le titre.
Voilà.
Donc,
qu'est-ce que tu veux dire? J'ai compris en fait. Ouais.
Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, j'aime vraiment beaucoup ce morceau. Je serai toute ma vie reconnaissant à Ciara pour avoir permis de participer à ce morceau que je trouve très sympa.
Et d'ailleurs, j'ai vu que tu portes le t-shirt Italia. Est-ce que ça fait référence justement à ton single Pas travailler?
Oui, complètement. Je suis venue ici en chauvine, comme tous les Italiens le sont. Bah, je suis franco-italienne et Étienne aussi a des influences italiennes, je ne sais plus, c'était grands-parents.
Quand je mange des spaghettis, j'ai aussi des pizzas, je vais souvent manger des pizzas. Non, mes parents sont argentins, mais mes grands-parents sont italiens. Calabre, Sicile. Toi,
voilà,
c'est quoi, toi?
Du coup,
toi, c'est quelle région, toi?
Frioul et Piémonte.
Piémonte.
Voilà. Et du coup, dans Pas travailler, donc tu parlais le single qui est sorti il y a 4 jours, il y a 4 jours. C'est vraiment un hymne à la Méditerranée, au Farniente, à la Dolce Vita. Et à c'est un hommage à l'Italie qui nous a tout le temps accueillis à bras ouverts. Et voilà, alors qu'on est un petit groupe, qu'on se le dise.
Oui, bon.
Mais toujours très, très, ouais, c'est un pays très généreux pour les artistes, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a ressenti quand on a été là-bas.
Eh oui, ouais.
Deux fois, on a fait deux tournées là-bas.
Très bien reçu.
Dolce Vita.
Ouais.
Vivre la vie simple.
Troppo. Oui, oui, c'est
Troppo
ça.
Caldo. Ouais. Et c'était quoi l'autre?
Non, c'était... L'autre, c'était Amore... Al dente.
Merci Céline, merci à vous deux.
Merci de nous avoir reçus.
Ce fameux single, tout de
oui,
suite.
Bien sûr. Oui. Et n'hésitez pas à le 4 juillet, pop-up.
Ouais. Au pop-up okay, du label. Pas,
pop-up pas. Du label.
Super, on écoute tout de suite, pas travailler.
Merci. Je ne peux pas.
Ces bruits de mouettes, qu'on est bien en Italie, c'était pas travaillé de Doppelhandel.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
On finit cette matinale par toi Fabien, alors c'est quoi ces infos insolites ?
Eh oui, bonjour, et oui, j'ai encore trouvé des infos insolites pour ça, Internet est une mine d'or inépuisable. Et donc, on va aller en Thaïlande aujourd'hui, où c'est un client pas comme les autres qui a fait irruption dans un commerce lundi. Il était très affamé et c'est un éléphant sauvage qui s'est servi dans une épicerie. Les employés du parc ont tenté de le faire fuir, mais il a continué à déguster ce qu'il trouvait avant de finalement repartir avec des provisions dans sa trompe. Par chance pour le propriétaire de l'épicerie, la bête n'a pas fait de gros dégâts. Mais depuis plusieurs années, par contre, ça c'est moins drôle, les éléphants sauvages sortent des bois pour piller les cuisines des habitants. Et plus récemment, ces animaux se sont mis à se ravitailler à d'autres endroits, comme les commerces justement. Et donc ça fait donc des clients insolites. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les agriculteurs s'installent dans les forêts pour l'agriculture. l'agriculture et les éléphants sont contraints de quitter leur habitat de plus en plus restreint pour chercher de la nourriture. Donc c'est drôle, mais c'est pas drôle en fait. Voilà. Et sinon, depuis quelques années, il y a une théorie farfelue mais persistante qui attire l'attention. Et si les commandes de pizza autour du Pentagone annonçaient les grandes secousses géopolitiques ? Car l'idée au fond, elle est assez logique. Lorsqu'un événement grave se profile, les équipes du département de la défense se mobilisent, travaillent tard et finissent par commander à manger. C'est logique. Et quoi de plus rapide et bon marché qu'une pizza ? Eh bien, en fait, tout remonte aux années 90. À cette époque, Frank Mick, un franchisé Domino's bien implanté à Washington, avait remarqué une recrudescence soudaine des livraisons vers les bâtiments de la CIA la veille de l'invasion du Koweït par l'Irak. Le 1er juin 2025, le compte publié, à moins d'une heure de la fermeture, le Domino le plus proche du Pentagone connaît une affluence anormalement élevée. Quelques heures plus tard, des tensions s'intensifiaient entre Israël et l'Iran. Coïncidence ou intuition, ça, c'est à vous de décider. Et puis, une histoire donc avec un adolescent de 19 ans qui est connu sur les réseaux sociaux et qui s'est lancé un défi alarmant. Il a décidé de ne muscler qu'un seul côté de son corps pendant 182 jours. Il est connu donc sous le nom du Roi Tordu. Il est suivi par des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux où il partage des vidéos de ses entraînements à la salle de sport. Aujourd'hui, il a une silhouette déformée et inclinée car il a musclé que le côté droit. Il n'est plus du tout équilibré ni symétrique et la raison évoquée, c'est qu'il se trouve trop beau et qu'il avait trop de succès. Oui, si on veut, quoi. Et si on ne comprend pas vraiment la raison d'une telle transformation, il faut espérer qu'il finisse par se muscler le côté droit pour retrouver une asymétrie et éviter les problèmes de santé. Ce n'est évidemment pas un modèle à reproduire, ni une référence, comme la majorité des influenceurs, évidemment. Parce qu'ils ne sont pas très très intelligents, je trouve. Et enfin, pour terminer, nous avons deux journées mondiales. La journée mondiale du tricot aujourd'hui. Donc c'est un événement, c'est vraiment très très intéressant. La journée mondiale du tricot se tisse entre les tricoteuses et tricoteurs de toute la planète et est devenue en quelques années une belle réalité. Après le joli démarrage des tricots cafés aux États-Unis et maintenant en Europe, après le succès des championnats de France de vitesse du tricot du salon, si c'est vrai ça existe, l'aiguille en fait, la vague laineuse est en train d'envahir la France entière et vous pouvez chercher sur internet, il y a plein d'ateliers, plein de soirées par rapport à la journée du tricot. Et il y a aussi une autre journée mondiale qui est fabuleuse, c'est la journée mondiale de la poupée, c'est aussi aujourd'hui. Et cette journée est connue aux États-Unis sous le nom de World Doll Day, bon c'est de l'anglais, hein, et a été lancée en 1986 par une collectionneuse américaine, Mildred Seeley. Elle voulait à l'époque lancer un message de bonheur et d'amour. La première édition s'est tenue un 14 juin, mais la date de la journée est variable et tombe en principe sur le deuxième samedi de juin. En 2025, c'est aussi le 14 juin. Et voilà avec ces infos extraordinaires.
Merci Fabien, c'est déjà la fin de cette matinale, mais nous nous quittons que pour de très courtes durées, car on se retrouve demain pour le même rendez-vous à 19h sur le 93.9. Même heure, même onde. Je remercie chaleureusement mes invités de ce soir, Dorian Guinard et Christine Arrighi d'Opel Handel. Merci également aux bénévoles Hélène, Céline, Félix, Fabien, Francesca, Éléonore à la réalisation, Maïwenn et Alice à la coordination. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.